Bonjour. On était hier avec les ados et les jeunes à Lambersart, donc avec les ados et les jeunes de Lambersart. Et c'était une soirée de prière pour les chrétiens d'Irak et de Syrie. Bon, à mon goût, on n'a pas prié beaucoup par rapport à la durée de la soirée, mais voilà. On rejoint ce qu'a dit Emmanuel, en fait. On pourrait se dire, ces gens là-bas, à l'échelle de la planète, ils sont rien. Et ils pourraient se dire, je suis rien, et qui va s'occuper de moi, qui va prendre soin de moi? Et Dieu, il est tellement grand, il est tellement grand. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il s'est incarné dans un simple homme, quoi. Et quand on voit la différence d'échelle du Dieu qui est plus grand que toutes les galaxies, tout l'univers, et qui, en un seul, juste un homme, quoi. Ça laisse sans voix, quoi. Enfin, on n'arrive pas à l'imaginer. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait, et il prend soin des simples hommes comme nous. Il prend soin juste des humains comme ça, qui sont rien du tout. On n'est rien. Quand on dit à l'échelle d'un pays, on n'est déjà rien du tout à l'échelle de la planète. Et quand on voit ce grossissement au fur et à mesure, là, on se dit on est vraiment, vraiment rien. Et Dieu prend soin de nous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire ça. Et il faut l'intégrer à nos vies. Ça change beaucoup de choses, en fait, cette idée que Dieu est très, très grand et que nous, on n'est pas grand-chose. Ça change notre manière d'être et de vivre. Alors, une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas basé sur un thème en particulier, mais sur un passage. Alors, je sais qu'Alex aime bien ces prédications-là, et ça oblige à creuser le texte, tout ça. Et alors, en l'occurrence, j'ai pas creusé grand-chose. Il y a un verset qui m'a percuté une fois. Je me suis dit, ah, je vais les dire en exhortation, mais je vais la préparer un petit peu quand même. Et j'ai commencé à taper mon truc dans le train le matin, et puis, et voilà, j'ai une prédication. Donc voilà. Alors, on va aller dans Juges, chapitre 6. Et c'est rigolo parce qu'il y a des petits morceaux qui viennent d'un petit peu tout le monde qu'on va retrouver, un peu comme d'habitude. On n'a pas préparé d'avance, hein, on ne s'est pas appelé les uns les autres pour dire tiens, faut que tu parles de ça, ça va faire bien. Donc Juges chapitre 6, je vais lire les six premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc ça commence bien, hein, on va dire. Par le verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est la situation de tout le monde, en fait. On a tous fait ce qui déplaît à l'Éternel. Dans Romains 3, 23, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est une des causes. Alors, faudra bien prendre ce que je dis, mais c'est une des causes qui fait qu'on se retrouve dans la difficulté. C'est pas la cause. C'est pas parce que voilà, vous avez des difficultés, vous allez dire ah, j'ai fait quelque chose contre l'Éternel. Il y a plein d'autres cas qui montrent des gens qui n'avaient rien fait. Et qui se sont retrouvés dans les difficultés. Voilà. On peut penser à Job, hein, très facilement. Il n'avait rien fait, il était juste et intègre devant Dieu. Et pourtant, des difficultés, il en a eu. Mais c'est l'une des causes. Faire ce qui déplaît à l'Éternel. Et la conséquence, elle est directe, hein. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans, c'est parfait. Sept, c'est le. Alors, c'est la problématique avec les chiffres dans la Bible. Et les enfants d'Israël ont peut-être été sous la main de Madian pendant 7 ans concrètement. Je ne dis pas le contraire, d'accord? Mais 7, c'est aussi le symbole du divin, du parfait, et donc la punition de Dieu, on va dire, pendant 7 ans. Et 7 ans, c'était la durée parfaite pour qu'on en arrive au verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants crièrent à l'Éternel. Donc pourquoi 7 ans? C'était le temps qu'il fallait, le temps parfait pour amener Israël à la repentance, à dire voilà, j'ai péché contre Dieu, viens à mon secours et que Dieu y puisse intervenir. Donc les deux choses peuvent cohabiter sans problème, hein, ils ont peut-être fait 7 ans physiquement, voilà, réellement, et en même temps, c'est une durée que Dieu a choisie pour montrer quelque chose que, voilà, des fois, on peut dire c'est long, pourquoi tu me laisses galérer autant voilà, et il y a un moment où on a le déclic, et voilà, Dieu, il avait choisi cette période-là, et il sait que s'il fait trop court, on ne se tournera pas vers lui. S'il fait trop long, on risque de chuter, on risque de tomber. Et il a une période parfaite pour nous amener à lui dans l'épreuve. Et donc, après le verset 6 vient le verset 7. Alors là, c'est un verset 7, je ne vais pas vous dire que c'est parfait tout ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et le verset 7, il nous dit, « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. » Donc on retrouve cette idée, voilà, ils ont souffert, ils ont crié à l'Éternel, et là, Dieu y répond. Les 7 ans, c'est la durée pour que Dieu y vienne répondre. Il fallait cette durée-là, en fait. Et cette situation, après, dans Israël, je reprends dans les versets d'avant, Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. C'était avant le verset 2. « La main de Madian fut puissante contre Israël. » Et juste avant, on avait lu aussi « L'Éternel les livra entre les mains de Madian. » Et moi, ça m'a fait penser directement à Job, encore une fois. Parce que quand j'ai réfléchi sur ce verset, il me dit « Mais on ne fait pas toujours ce qui déplaît à Dieu. » Donc l'exemple qui vient, c'est Job, parce que voilà, c'est connu dans la Bible. Et si on prend Job 1, verset 12, on lit « L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, » en parlant de Job. « Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et voilà, il va perdre ses enfants, il va perdre ses troupeaux, ses biens, il va quasiment plus rien avoir, mais il va garder la santé. Jusqu'à ce que Satan repasse devant l'Éternel, s'engage une nouvelle discussion, et au bout d'un moment, l'Éternel dit à Satan, donc c'est Job 2, verset 6, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et à ce moment-là, Job, il va attraper des ulcères, il va avoir une santé qui se dégrade complètement, mais il ne mourra pas. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les deux cas, que ça soit Job et Satan, que ça soit Israël avec Madian, c'est Dieu qui met la limite très précise. C'est lui qui livre à l'ennemi. Donc c'est pas l'ennemi qui choisit de faire ce qu'il veut. C'est Dieu qui lui permet de nous atteindre. Et il met une limite. Et on voit que dans le cas de Job, il met une première limite, voilà. Après, il en met une deuxième. Et systématiquement, Satan peut pas aller plus loin. Il aurait très certainement voulu le faire périr pour s'en débarrasser, mais il ne pouvait pas. Et c'est rassurant pour nous, encore une fois, de se dire que quoi qu'il nous arrive, Dieu a mis une limite bien précise et que ça ne peut pas aller plus loin. On voit l'image, en fait, hein, du malin dans notre vie aussi, hein, à travers d'Israël qui est livré à Madian. On peut dire, bah, c'est nous, on est livré à Satan par moment. Voilà, Dieu, il laisse Satan faire certaines choses, mais c'est lui qui contrôle. Et le plus belle concrétisation de ça, c'est à la croix, en fait. Et Dieu, il a laissé Satan travailler, mettre même à mort son fils, mais c'était son plan. C'était ça, voilà, il n'y avait pas de limite dans un sens, c'était aller jusqu'à le tuer. Et il l'a laissé faire, mais il l'a laissé faire. C'est ça les mots importants, en fait. C'est pas Satan qui a fait ce qu'il voulait et qui s'est débarrassé de Jésus. C'était le plan prévu par Dieu, et il n'a fait qu'obéir au plan prévu par Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est pas parce qu'on est dans l'épreuve qu'on a forcément péché, d'accord ? Job, il n'avait rien demandé, il faisait plaisir à Dieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Vous voyez que c'est terrible, hein, il n'y a pas de solution pour nous. Si on pêche, on peut se retrouver dans la galère, et si on pêche pas, ben, on peut se retrouver le jeu de plus fort que nous, et dans une situation où on galère aussi. Voilà, c'est joyeux, hein ? C'est joyeux. Mais là, ce qui est joyeux, c'est que c'est Dieu qui permet tout, qui a son plan et que c'est parfait. Il ne nous fait pas galérer pour le plaisir de galérer. C'est parce qu'il a un plan bien précis. Donc, on retourne dans Juges chapitre 6, le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Est-ce que vous connaissez le nom de ce prophète ? Ben non, il n'est pas écrit et nulle part après on parle de ça. Et moi non plus, je ne le connais pas, le nom de ce prophète. Et il y a plein de, il y a plein d'illustres inconnus, comme ça, on va utiliser cette formulation-là, qui ont servi le Seigneur et dont on n'a pas les noms, en fait. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Il y a des fois, on fait des choses hein, dans l'Église, on fait des choses pour le Seigneur et c'est pas reconnu. Alors, il y a un petit côté frustrant, des fois, on se dit, bah mince, quand même, voilà. Mais dans certains cas, les personnes sont mises en avant par Dieu. On connaît des noms, on a les noms de plein de gens dans la Bible hein, qui ont servi le Seigneur. Et dans d'autres, eh ben, on ne sait pas. Voilà. C'est un inconnu, il a fait quelque chose. Déjà, c'est mentionné, c'est pas mal, parce qu'il y en a plein pour qui c'est même pas mentionné dans la Bible. Et on peut avoir les deux situations dans notre vie. On peut faire certaines choses et voilà, notre nom est connu pour une certaine chose. Et à côté de ça, bah, l'autre travail qu'on fait n'est pas connu. En fait, la meilleure situation, c'est l'anonymat. C'est pas ce qui nous plaît, hein, forcément. Mais c'est la meilleure situation. Et je sais pas s'il faut le rappeler, tellement ça me paraît évident, mais j'ai quand même pris des exemples de, voilà, de gens qui sont sortis de l'anonymat. Et en fait, le problème, c'est l'orgueil. C'est ça le problème de l'homme. Hein. Sinon, Dieu, il pourrait presque nommer tout le monde, ça poserait pas de problème. Mais à partir du moment où votre nom, il commence à sortir, bah, wouah! Ah, c'est moi, quoi. Et si c'est moi, bah, c'est plus le Seigneur. Je suis qui enfle, tous les symptômes qui montrent l'orgueil. Il y a plein d'exemples. J'ai toujours en tête cette Amy Winehouse, en fait, que vous voyez avant, en fait, quand elle était jeune. C'est une jolie jeune femme qui chantait superbement. Et quand vous voyez ce qu'elle était à la fin, c'était... Pouh, c'est triste à voir, en fait. Elle ressemble à une droguée et quelqu'un qui est vraiment, vraiment pas bien. Moi j'aime beaucoup le groupe Genesis. Voilà. C'est un groupe de rock pas chrétien, absolument pas. Et j'avais acheté une fois un de leurs DVD où là, ils discutent de leur tournée, on voit toute la préparation, donc on voit un peu le caractère des gens en fait. C'est ça qui est intéressant de voir leur vie. Et donc ils sont trois ils ont été trois à tenir bien le groupe, on va dire. Il y a Phil Collins qui est connu, qui chante aussi en solo. Puis il y a deux musiciens à côté. Et ces deux musiciens, ils disaient, mais en fait, on a vu Phil Collins tomber, en fait. Son problème, c'est que lui, il chantait et qu'il était sous les feux des projecteurs. Et c'est ça qu'il a perdu, clairement. Et dans cette dernière tournée qu'ils avaient fait en 2007, je crois, il y a quelques années, le producteur, il dit, voilà, on va faire 20 concerts là, puis 20 concerts là, 20 en Amérique, je crois, et 20 en Europe, on va faire une grande tournée, et Collins, il fait, non, j'en fais 10 là, les 10 suivants, tu les chantes toi-même. Alors, voilà, et c'est là où les autres musiciens expliquent, mais en fait, il a pris conscience qu'il a bousillé sa vie. Et il a tellement, tellement tourné qu'il n'a pas vu ses enfants, et il se retrouve à avoir une vie où, voilà, il y a eu des enfants avec trois femmes différentes, il y a une vie qui est compliquée quand même. Et qui est triste. Et je pense qu'il s'en aperçut. Il y a une période de dépression. Je suis pas sa vie personnelle à ce point-là, mais voilà, il y a une vie triste. Et les gens autour de lui ont pris conscience eux aussi que c'était parce qu'il avait été sous les feux de la rampe et que il n'avait pas su gérer. En plus, c'est des gens pas chrétiens. Quand on est chrétien, on gère l'orgueil. Bon, non, pas plus que les autres, je pense. Alors, un autre groupe de rock. Hein, vous m'excusez, j'ai des goûts particuliers, mais. ça s'appelle White Heart, qui est un groupe de rock aux États-Unis. Et globalement, c'est ça et puis Petra, c'est deux grands groupes historiques aux États-Unis. C'est vraiment des grands groupes connus. Alors en Europe, forcément, on est un peu à part pour ce qui est groupe chrétien. Et dans les années 90, le chanteur il s'est retrouvé en prison pour attouchement sexuel sur mineur. Et là encore, les autres musiciens expliquaient, mais on n'a rien vu venir, en fait. Nous, on chantait pour le Seigneur, on était à fond pour le Seigneur. Et en fait, sa femme explique aussi, mais il a juste pas su gérer l'orgueil. Et d'un seul coup, il est tombé, il s'est fait avoir par le malin. Et voilà, et c'est assez beau de voir. Dans un sens, sa femme, elle est restée avec lui, en fait. Et elle l'a soutenu tout du long. Et il me semble qu'il est sorti de prison il y a quelques années. Et elle est encore avec lui pour le soutenir. Elle a juste reconnu qu'il était tombé. Et qu'il n'avait pas géré l'orgueil. Et lui-même, il s'est humilié complètement. Voilà. Donc sa carrière, elle est bousillée, hein, et son témoignage aussi, dans un sens. Il est allé en prison pour quelque chose qui est absolument pas glorieux, et c'est quelque chose qui va traîner tout du long. Dans la Bible, on en a aussi des exemples Je lourde, hein, mais je pense que c'est important parce on se dit souvent, ah, moi j'aimerais bien être au micro là, j'aimerais bien faire ci, faire ça, et en fait, c'est pas une position qui est forcément enviable. Voilà. C'est David dans la Bible. On la connaît tous, hein, son histoire. Il était devenu roi, il était devenu grand, glorieux, il a fait des grandes conquêtes, et il a vu Bathsheba et il est tombé. Et ça a coûté derrière le royaume à ses fils. Ça a coûté beaucoup de douleur pour beaucoup de gens. Donc c'est voilà. Après, si vous dites moi je peux gérer l'orgueil, vous comparez à David et puis vous dites que je suis meilleur que David, moi j'oserais pas. Voilà. Non, moi je suis pas une star, hein, mais vous voyez le fait de venir ici, je chanterai pas du rock ici non plus, hein, je chante déjà pas tout seul. Mais voilà, rien que le fait d'être devant vous. Ma grande crainte, c'est toujours l'orgueil. Et je pense qu'en fait, c'est une bonne chose de se dire, voilà, tant que j'ai l'orgueil devant moi et que je m'en méfie, c'est une bonne chose. Le jour où je le vois pas, bah, c'est qu'il est là et je le vois plus. Et il faut vraiment se méfier. Alors, faut pas que ça devienne forcément une crainte qui vous habite tout le temps, mais il faut se méfier, il faut se remettre toujours devant le Seigneur. Et on revient à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'on est rien. Si on reprend notre position, en fait, et par rapport à Dieu, lui, il est juste. On ne peut pas le mesurer. Et nous, on n'est strictement rien devant lui. Alors, on a une position qu'il nous donne, il prend soin de nous et il nous donne de la valeur. Mais en réalité, on n'est rien. Et ça, il faut se le remettre à sa place. Alors, comme j'ai l'habitude de dire quand on étudie les passages dans Ésaïe, c'est pas un passage qui parle aux païens. C'est un passage qui parle au peuple d'Israël. On voit ce que le prophète il dit, voilà, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, vous avez fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré. Tout ce qu'il dit là, c'est au peuple d'Israël, c'est pas à des gens qui ne connaissent pas. Donc tous ces avertissements-là, il faut les prendre pour nous, en tant que chrétiens, et pas dire ça, c'est valable pour les autres, c'est pas pour moi. Les propos qu'on voit là, à propos du peuple d'Israël, c'est comme partout dans la Bible, ils sont très facilement transposables à notre vie. Dieu, il peut me dire, il peut vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai délivré de la main du diable, je te donne une vie de liberté en moi, et tu vas replonger toi-même là-bas, et je suis obligé de te mettre à l'épreuve, je suis obligé de te secouer pour te réveiller et pour que tu viennes crier à moi. On peut vraiment faire le parallèle très facilement avec notre vie, hein, c'est pas compliqué. Ah, on en arrive au verset qui m'a fait fouiller un petit peu, qui m'a fait fouiller un peu plus ce passage. On en arrive à quelqu'un de connu. Au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Donc après, je ne vais pas vous lire toute la suite, mais Gédéon fait un sacrifice, et en fait, il ne met pas le feu, et c'est Dieu qui accorde le sacrifice, en fait, qui fait tomber le feu sur le sacrifice, et qui montre que voilà, c'est bien lui qui a parlé. Mais ce qui m'a... Ça n'avait pas percuté avant, en fait, hein, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît, qui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Qu'est-ce qu'il trouve à redire? « Ah, mais ouais, mais si Dieu était avec moi... » Mais il y a un truc qui pose problème avant ça, en fait. Vaillant héros. Il y a une espèce d'ironie de la part du Seigneur, quand même. Quand on voit comment il agit derrière Gédéon, on a bien compris que ce n'était pas un vaillant héros. Mais quand Dieu lui dit, voilà, tu vas agir pour moi, vas-y, t'es un champion. Je caricature un petit peu, mais il dit, oh, mais si l'Éternel est avec moi, il ne met absolument pas en doute le fait qu'il est un héros ou un champion ou je ne sais pas quoi. Il met en doute le Seigneur qui n'est pas avec lui. Et dans un sens, quand on témoigne auprès des gens, on leur dit, mais tu sais, Dieu, il t'aime, il veut te sauver. Les gens, oh, mais si Dieu, il m'aimait, il ne se passerait pas ça, il ne se resterait pas ça. Et les gens, ils ne mettent pas en doute leur propre péché, ils ne mettent pas en doute leur propre vie, ils mettent en doute l'amour de Dieu. Ils ont exactement le même comportement qui est risible quand on le voit comme ça, mais ils font la même chose. Et nous aussi, de temps en temps, on a tendance à faire la même chose. Dieu, il nous dit, bah, fais ça pour moi, je serai avec toi. Oh, mais ouais, si tu étais avec moi, il ne se passerait pas ça dans ma vie. Et c'est lui qu'on met en doute, pas nous. Dieu a bien compris le problème de Gédéon, hein, il le sait bien. Quand il lui parle après, tout au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui, il dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et Gédéon lui dit, ah, mais moi je suis trop petit en fait, tu peux pas m'envoyer, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, du plus petit pays, enfin voilà, je suis rien, m'envoie pas. Alors, on pourrait dire dans un sens, allez, il y a une certaine prise de conscience de Gédéon. Oh, je pense que c'est juste une excuse bidon, en fait. Comme Moïse, exactement, comme Moïse, comme Jérémie qui dit, ah, tu m'envoies pas, moi je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Et on en a quelques-uns comme ça dans la Bible, des exemples où les gens ils ont tenté d'esquiver un peu ce que Dieu leur demandait, juste en... Voilà. Et la plupart, ils n'ont pas pu esquiver, d'ailleurs. Hein. Moïse, il y a eu droit, Jérémie, il y a eu droit, Gédéon aussi. Voilà, ne cherchez pas les excuses, hein. Dieu, quand il vous veut, il vous prend, et voilà. Alors, on pourrait se dire aussi, il est dans une situation compliquée. Il y a le Madian qui attaque, qui est en train de piller le pays. Il essaye de sauver juste un petit peu de récolte pour dire d'avoir à manger quelque temps. Et c'est la détresse, on va dire, c'est la détresse de l'homme qui fait qu'il se questionne sur Dieu et qu'il ne voit pas ses propres problèmes. Moi, je ne pense pas. Je pense quand même qu'on en revient au problème principal de l'homme, qui est le péché et qui est l'orgueil, qui fait que lui, il n'y a pas de problème chez lui, sauf quand il faut trouver une excuse. D'ailleurs, on n'est jamais complètement honnête, en fait, avec le Seigneur. Et Gédéon, il savait tout ce qui se passait. Il dit, l'Éternel nous livre à Madian. Gédéon a peut-être aussi entendu ce qu'a dit le prophète juste avant. Gédéon, il a peut-être aussi entendu ce qui s'est dit depuis bien longtemps, qu'Israël était un peuple pécheur. Le fait que Israël allait désobéir, c'était prévu depuis bien longtemps. Alors, je ne remonte pas trop loin, mais juste à Josué. Je vous lis Josué, chapitre 24, à partir du verset 19. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, » ce n'est pas si vous abandonnez l'Éternel, hein, c'est lorsque vous abandonnerez l'Éternel, « et que vous servirez des dieux étrangers. » C'était écrit précisément ce qui allait se passer. « Il reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. » À cette époque-là, le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi de l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vous voyez qu'au moment où ils disent on va servir l'Éternel, Josué dit bon ben faites déjà le ménage chez vous parce que ça part mal. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, nous obéirons à sa voix. Ils ont persévéré et un peu plus loin le peuple dit nous sommes témoins contre nous-mêmes. Et là on retrouve encore une fois le même problème qui est l'orgueil. Dire non, non, mais je vais y arriver, je vais servir l'Éternel, je ne tomberai pas, je. Et Dieu dit, mais vous allez tomber. Ça va se passer comme ça de toute façon. En fait, ce qui est terrible, c'est de voir le peuple qui répond, non, mais on va le servir, on est témoin contre nous-mêmes. Voilà, c'est un peu une manière de dire, on est d'accord contre la punition, si on pêche, on veut bien être détruit. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent en fait. Alors, on recommence avec Gédéon. Après la réponse de Dieu, donc Gédéon lui dit, mais moi, je suis tout petit, je suis ceci, je suis cela. Et on pourrait dire, il a compris des choses. Mais finalement, quand on voit ce qui se passe après, on a l'impression que Gédéon, il y a des hauts, il y a des bas, en fait. Il y a des fois où il a compris qu'il n'était pas grand-chose, puis des fois où ça remonte. Après, il va réunir le butin. qu'il a récupéré contre Madian. Il va faire une statue. Voilà, comme ça, il y a une espèce de passage à la postérité. C'est la statue que Gédéon a fait quand il a battu Madian, vous savez. Donc il y a des choses comme ça qui ne vont pas, et on voit aussi dans la suite. Je vais juste en parler après. Et malheureusement, c'est dommage, parce que même si le cœur n'est pas bon, la réponse à la base, c'était celle-là que Dieu attendait. Il n'attendait pas que lui soit mis en doute. Il attendait une réponse de « Mais Seigneur, je suis petit, je suis rien, qu'est-ce que tu vas faire avec moi ?» Et quand on disait tout à l'heure, les gens, ils n'ont pas coupé. Quand on parle de Moïse, de Jérémie, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette réponse, mais avec le cœur qui allait bien, en fait. C'est « Seigneur, moi, je suis pas grand-chose, qu'est-ce que tu veux faire de moi ?» Et Dieu, là, il se dit « Eh ben, c'est parfait. Maintenant que tu as compris que tu n'es pas grand-chose, je peux me servir de toi, je peux faire quelque chose avec toi. » C'est la bonne réponse, mais il faut que le cœur, il corresponde à ce qu'on répond, en fait. Et la réponse de Dieu à Gédéon, elle ressemble un peu à « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». C'est ce qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 12. « Tu te crois trop petit pour faire mon œuvre, et ben c'est très bien, comme ça, moi, je pourrais agir au travers de toi. » Et ce qu'on voit à chaque fois, quand on parle de Moïse, de Jérémie ou de Gédéon ici, Dieu dit « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et l'Éternel aussi, au verset 16, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi. » Voilà, la tâche qui est là, elle est trop grande pour nous, il faut le reconnaître. Mais elle n'est plus trop grande à partir du moment où Dieu est avec nous, parce que c'est lui qui fait le travail. Et c'est là où il faut intégrer, voilà, que nous, on n'est pas grand-chose, garder notre place, et le Dieu qui est bien plus grand, il peut faire son œuvre. Donc Gédéon va demander, on ne va pas lire toute l'histoire, mais il va demander confirmation, donc d'abord avec ce sacrifice, et un peu plus loin, il va demander le passage qu'on connaît tous avec la toison, en fait. Il va mettre une toison et dire à Dieu, ben voilà, je veux qu'il y ait de l'humidité par terre, mais pas sur la toison. Puis après, il va faire l'inverse. Et Dieu va lui répondre à chaque fois. Le vaillant héros a fait la première tâche que Dieu lui demandait de nuit, par peur des gens du village, de ce qu'on allait dire, de ce qui allait se passer. Donc vous voyez qu'on... Voilà, il y avait de quoi mettre en doute le caractère vaillant de Gédéon, en fait. Et enfin, c'est là pour ça que je vous dis que c'était de l'ironie de la part de Dieu, parce qu'il sait très bien comment il est au fond de son cœur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Gédéon va créer une idole, on le voit au chapitre 8. C'est pas ça. Bon, en tout cas, il crée une idole avec le butin. Je l'ai peut-être noté ailleurs. Si, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, Gédéon, juge, chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » C'est là où on voit qu'il y a des moments où il a conscience de ce qui doit se passer, et des moments où il retombe. Et juste après, Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Donc vous voyez, il dit, c'est l'Éternel qui va dominer sur vous, c'est moi, je ne dois pas être votre roi, c'est pas ma place. Et derrière, il fait quelque chose qui est une occasion de chute pour plein de gens derrière. Par la suite, il va avoir beaucoup de fils. On dit au verset 30 qu'il eut 70 fils, dont l'un qui s'appelle Abimélec. Et ce Abimélec en question va tuer la quasi-totalité de ses frères. Il va en rester un qui s'appelle Jotam. Donc vous voyez les conséquences de la vie de Gédéon derrière, en fait. Ce qu'il a laissé, c'est pas une vie modèle et des fils qui vont servir le Seigneur. C'est un carnage, en fait, derrière. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que Dieu a utilisé Gédéon malgré ses imperfections, malgré les ratés, voilà, les gros ratés qu'il avait dans sa vie, et il l'a utilisé. Et dans un sens, c'est un avertissement pour nous. Ça veut dire que des fois, on a une petite pointe de fierté, une petite pointe d'orgueil dans notre vie, dire « Ah ben, le Seigneur, il a fait ci, il a fait ça au travers de moi. » Mais ça ne veut pas dire que votre vie, elle est clean, elle est propre, en fait. Dieu, il peut utiliser n'importe qui. On a vu tout à l'heure, Dieu, il a utilisé Satan pour faire l'œuvre à la croix. C'est pas pour ça que Satan était sauvé, qu'il était bien. Voilà, on est tous conscients. Donc il faut se méfier de juger notre vie par rapport à ce qu'on fait. Et se dire, bah voilà, parce que moi je fais plein de trucs pour le Seigneur, ou parce qu'il y a même, parce qu'en apparence il y a beaucoup de résultats pour le Seigneur, c'est que je suis bien aux yeux du Seigneur, quoi. C'est que j'ai une bonne vie. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, et c'est la connaissance de Dieu qu'on a. Il y a des gens qui sont pas mentionnés dans la Bible et qui avaient une connaissance de Dieu qui était grande. Donc je voulais juste comme un avertissement, je ne m'étends pas sur cette idée-là, mais qu'il ne faut pas regarder à nos actions, à ce qu'on fait pour le Seigneur, en fait, pas à ce qu'on dit. Donc je veux en rester avec l'idée qui me trotte depuis des mois et des mois, hein, vous l'avez peut-être vu au fil des prédications, de où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, en fait. À quel point on le connaît, à quel point on est proche de lui. Gédéon, vraisemblablement, il ne le connaissait pas bien. Quand on voit ce qu'il fait, il y avait quand même des ratés, et se dire c'était un homme de Dieu, voilà, c'est compliqué. Et moi, dans ma vie, où est-ce que j'en suis avec Dieu? Pas où j'en suis avec ce que je fais, avec ce que je dis, je le répète, mais où est-ce que j'en suis dans ma connaissance de Dieu, ma vie avec Dieu? C'est important, en fait, c'est le truc le plus important de notre vie, c'est à quel point je le connais. Et quand on voit dans le Nouveau Testament, c'est un passage qu'on cite souvent, mais les gens qui se retrouvent devant Dieu, et ils disent, mais Seigneur, j'ai fait des miracles pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait plein de choses pour toi. Et Dieu leur dit, mais va-t'en, je ne te connais pas. Va dans le feu qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Je ne te connais pas. Si vous ne le connaissez pas, il y a un problème, ça risque d'être réciproque. Et c'est important pour nous de nous remettre devant lui, de pas viser plein de choses à faire, mais de viser une connaissance de Dieu qui soit profonde. Et c'est uniquement ça qui nous sauvera. C'est pas nos œuvres. Les œuvres, après, elles en découlent. C'est une logique qui, voilà, on peut pas être sauvé par Dieu, le connaître pleinement et rester assis et ne rien faire. Ça, on va forcément se mettre en action. Mais le point le plus important, c'est notre connaissance de Dieu. Voilà, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cette introduction d'Emmanuel qui met les choses tout de suite à leur juste place. Seigneur, ta grandeur à toi, Seigneur, ton immensité, et Seigneur, notre petitesse à nous. Et on te prie de prendre conscience pleinement de qui nous sommes, Seigneur, pour que tu puisses mettre ta vie en nous, et ensuite, Seigneur, qu'on puisse te servir, qu'on puisse t'honorer et avoir une vraie vie. Seigneur, notre vie a de la valeur à tes yeux. Seigneur, même si nous sommes petits à l'échelle de l'univers, elle a une grande valeur à tes yeux. Tu as payé le prix pour nous. Je te remercie pour ça, Seigneur, et je te prie vraiment d'agir dans nos vies, Seigneur, qu'on ne soit pas comme Gédéon à faire des œuvres pour toi, avoir peut-être même des grandes victoires, et derrière être la chute de plusieurs, Seigneur, la chute de beaucoup. On prie vraiment de te révéler à nous, Seigneur, qu'on ait une pleine connaissance de toi. Seigneur, on revient aussi à ce que disait Dave, d'être rempli de ton esprit, rempli de toi. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Amen.